France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Manu Larcenet. Vers 19h45, le son du jour, on écoutera Logic One Farthen et le morceau Primaces. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier avec une réécoute de l'épisode du 16 février dernier dans lequel Marie nous faisait découvrir un service d'art à domicile proposé par l'association Derrière le Hublot dans l'Aveyron. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dalia à la prise de son. Bonsoir Manu Larcenet.
Bonsoir monsieur.
Très heureux, vraiment, très heureux de vous accueillir.
Ça me fait plaisir aussi.
Vous venez de publier La Route chez Dargo, adaptation roman graphique du roman de Cormac McCarthy, paru en 2008 aux éditions de l'Olivier, dans sa traduction en française de François Hirsch. Traduction qui reparaît d'ailleurs aux éditions Point, dans une édition que vous avez illustrée. On parlera bien sûr de cette belle actualité, on va en profiter de votre venue rare. Pour en savoir un peu plus sur votre parcours, sur vos méthodes de travail. La première question, c'est toujours celle de la vocation. Alors, on regarde souvent dans l'environnement familial. Alors, si vos deux parents font des métiers en lien avec la comptabilité, ils peignaient tous les deux. Votre père était aussi un grand guitariste classique.
C'était un bon
guitariste classique, on va dire. Cette part artistique, est-ce qu'ils l'ont partagée d'une façon ou d'une autre avec vous et votre frère?
Je suis pas sûr qu'ils aient eu la volonté, mais à force de traîner dans leurs pattes et de les voir et d'écouter de la guitare classique et de voir ma mère reproduire des Pissarro, des Monet, je trouvais ça fascinant, surtout parce qu'ils avaient l'air beaucoup plus sereins quand ils faisaient ça. On n'était pas dans va faire tes devoirs ou j'ai ceci à faire ou faut faire les courses. On était dans un temps qui, moi depuis, j'adore retrouver un temps de suspension dans le flot de la vie.
La découverte de la bande dessinée arrive par un cousin et aussi par Cabu dans Récréa 2. Vous avez une douzaine d'années et vous commencez à dessiner une planche par jour, du lundi au vendredi. Le temps passé sur la petite table, c'est aussi ce qui vous permet de tenir, de supporter des années collège qui ne sont pas vraiment les meilleures de votre vie. La musique aussi sera une autre échappatoire avec ce groupe que vous formez en classe de 3e qui va durer une dizaine d'années. Mais heureusement, il y a quand même Monsieur Castel, professeur de dessin.
Mais je ne sais pas où vous avez trouvé. Mais là, oui, il y a Monsieur
Castel.
Nous
avons une équipe de détectives hors pair dans cette émission.
C'est
Jules Barbier, en l'occurrence.
Cet homme a sauvé la vie.
Eh ben voilà, racontez-nous ce qu'a fait Monsieur Castel pour vous.
Nous étions donc une heure par semaine dans son cours, tous en 6e. Et puis, il repérait les quelques que ça intéressait vraiment. Et il nous donnait des cours gratuits le mardi soir après le travail pour nous préparer dès la 6e à un éventuel concours d'entrée. Alors c'était souvent au lycée polyvalent de Sèvres qui était pour moi l'explosion de la vie à ce moment-là. Et tous les mardis soirs on apprenait la perspective, les ellipses, on apprenait comment on agence les couleurs, comment on compose une image. Et comme c'était qu'avec des enfants qui visiblement était intéressé par ça, c'était fascinant. Et ce type qui était très dur en classe, parce que dès qu'on oubliait son chiffon, on se faisait prendre la tête, il devenait cette espèce de une sorte de dieu pour moi. Il m'expliquait pourquoi ça marchait pas, ou pourquoi les choses que je faisais marchaient ou ne marchaient pas. Et j'ai découvert comme ça que c'était ça que je voulais faire, mais ça a été très très compliqué. Un jour, si vous avez deux secondes, un jour il a convoqué mes parents.
Ouais.
Mes deux parents, qui étaient comme tous les parents, une éducation artistique, on se demande à quoi ça sert. Et mon père disait ça, j'étais terrifié entre un cauchemar freudien entre mes deux parents et mon mentor, et je regardais mes pieds, et à un moment, il prend son stylo, qui était un beau stylo Bic, et il le défait, et il étale devant lui tous les éléments de ce stylo. Et là, il dit, vous voyez ce stylo-là? Eh ben, tout a été dessiné. Tout. De la forme générale jusqu'au plus petit ressort. Et après, il étend, il dit, le bâtiment dans lequel on vit a été dessiné, les meubles. Et quand on est rentré à la maison, Ben mon père était convaincu. Alors c'était pas un extraordinaire, mais il disait bon, ben il y a plein de débouchés apparemment. Et ce prof savait exactement parler aux parents. C'était, ça a été ce type, sans qu'il le sache sans doute, m'a offert une vie, m'a offert une vraie vie.
Oui, parce que en effet, dans ce lycée où on passerait un bac F12, puis après il y aura un BTS expression visuelle option image de communication à l'école Louis-Visser. Là, c'est quand même quelque chose. Tout d'un coup, un nouveau monde s'offre à vous. C'est-à-dire que l'école, les études, en l'occurrence le lycée, ça devient un moment de joie, d'expression.
Ça a été un très étrange moment parce que la maladie bipolaire qui m'habite a explosé aussi à ce moment-là. C'était un très étrange mélange de désespoir total. Et quand j'arrivais à l'école, ça cessait. Et dès que je travaillais, on a tout fait, de la tapisserie, de la céramique, du machin, du truc, de la couleur, du nu. Et à chaque fois que je rentrais en cours, tout ça s'évanouissait. C'était pour moi la possibilité d'un avenir. Et en plus, à cette époque-là, à Sèvres, il y avait la Manon Negra qui répétait dans un squat juste à côté, il y avait Dirty District, il y avait les Vampas, il y avait les Satellites. Ça a été une explosion de créativité dans cette époque-là. Alors moi, j'étais toujours avec cette idée que quand même, j'avais un problème. Mais je zonnais dans ces endroits-là, j'allais à tous les concerts. Ça a été magnifique. J'ai peut-être plus jamais retrouvé une telle profusion artistique.
Alors, cette profusion, elle vous amène quand même à... Bon, il y a le service militaire.
Donc ah oui,
ça, c'est quand même une étape particulière. D'ailleurs, vous l'avez pour partie raconté dans un livre. Mais ensuite, il y a le retour et puis la vie en squat. Qui va durer quelques années, des années marquantes, là encore pas forcément toujours pour des bonnes raisons. Et ces années-là, vous en sortez en décrochant votre premier emploi salarié, Manuel Arsenet, vous êtes embauché à Fluide Glacial. Vous devez donner 6 planches par mois. Alors pour vous, qui en dessinez, je ne sais pas combien par jour.
Une par jour.
C'est pas tant que ça. Et c'est vraiment une infime partie de la production dont vous êtes capable. Mais justement, avant de commencer à parler de ce que vous allez ensuite publier, pendant les années squat, est-ce que vous avez continué à dessiner ?
Toujours. J'ai jamais vraiment arrêté. Il y a des moments où je dessinais moins, parce qu'on était un peu obnubilés par divers groupes musicaux desquels j'ai fait partie. Au début, c'était avec des amis, puis après, c'était un peu au hasard des rencontres et tout ça. Et je voulais aimer ça, mais en fait, j'ai jamais aimé ça. Mais je détestais l'idée d'être un faux frère ou de laisser tomber la cause. Vous voyez, c'est bête aujourd'hui quand j'ai perdu tellement d'années à vouloir être plus royaliste que le roi, quoi. Mais en même temps, d'un autre côté, j'ai passé des moments musicaux incroyables. Quand vous créez un morceau avec 5, 6, 12 personnes, que vous le commencez et que vous le finissez et que c'est nickel, que c'est un bonheur que je n'ai jamais pu retrouver. Ça n'a rien de commun avec le bonheur solitaire, si je puis m'exprimer ainsi. Faire ça à 5 ou 6, dans une espèce de vision commune, c'était extraordinaire. En même temps, vivre presque à la rue, ça a été extrêmement dur, bien plus dur que ce que je voulais dire. Parce que être malade à la rue, c'est... Je me faisais ramasser tous les 2-3 matins, soit par la police, soit par les pompiers. Je passais ma vie à l'hôpital de la Salpêtrière. C'était... Mais je trouvais ça extrêmement rock, vous voyez, extrêmement punk. Et avec le recul, j'ai perdu des années que j'aurais dû directement aller chercher de l'aide à ce moment-là.
Mais vous avez toujours incarné,
toujours.
Un croquis.
J'ai toujours gardé avec moi du papier, des stylos. Mmh. Et dès que je pouvais, je le faisais. Parce que c'est, depuis tout petit, c'est le seul moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, où je peux me concentrer.
Alors, Fluide Glacial, vous allez collaborer de façon régulière une douzaine d'années, 94-2006, Manuel Arsenet, c'est votre veine, on va dire, la plus humoristique qui s'épanouit tout d'abord dans les pages du magazine, notamment la création de l'anti-Bob Moran, Bill Baroud. Mais très vite, en parallèle, 97, vous créez avec un ami, Nicolas Lebedel, Les Rêveurs, structure indépendante où vous allez publier des œuvres plus personnelles. Ça commence avec Dallas Cowboy, où vous revenez sur une enfance, une adolescence pleine de peur, pleine d'angoisse. Vous avez dès vos débuts, besoin de vous exprimer dans différents registres, parce que c'est quoi ? C'est pour essayer de trouver une forme d'équilibre ?
Je vous ai parlé de mon père tout à l'heure. Mon père, il avait ce truc de dire... Il savait que j'avais un problème, même si j'allais pas chez des médecins. Il savait que j'avais un problème. Il me disait toujours, ça va être dur pour toi. T'as pas la mentalité pour, t'es pas capable de t'imposer. Et c'est vrai que j'avais du coup dans l'idée que ça allait être l'enfer sur Terre. Et il m'avait dit, le seul truc qui peut peut-être te rendre libre, c'est de gagner ta vie. D'avoir un toit. Une fois que t'as un toit, après tu peux bouffer n'importe où, tu peux faire ce que tu veux. Et donc j'avais toujours, j'étais tiraillé entre gagner ma vie et tenter des choses artistiques. Mmh. Et heureusement, Flux Glacial m'a permis d'avoir, de payer mon loyer chaque mois pendant 10 ans, et de tenter avec Nicolas Lebedel des choses plus personnelles. Alors c'était toujours très teinté de la fameuse nouvelle bande dessinée des années 2000, là. Et je voulais être dans ce mouvement-là, et puis j'ai jamais vraiment réussi. Mais j'ai beaucoup appris, et surtout, quand... Moi, c'était une planche par jour. Donc, une fois que j'avais fait mes 6 planches pour Fluide, il me restait beaucoup de jours dans le mois. Hein. Donc, il fallait que je m'occupe. Ouais. Parce qu'il n'y a que ça qui me portait. Et donc, je continuais à faire d'autres projets. Beaucoup sont jamais sortis, n'ont jamais rien fait. Et puis, Nicolas m'a dit, tiens, essaye. On a fait des livres, on a essayé. Alors, c'est pas toujours réussi, loin de là. Hein.
Ouais, mais il y en a beaucoup.
Mais c'est un apprentissage. Moi, je suis très, très... Si vous voulez, dans mon métier, il y a deux genres d'auteurs. Enfin, il y en a trois, mais... Deux genres d'auteurs. Il y a les virtuoses. Blutch, par exemple. C'est un virtuose, il a un œil, il a quelque chose de plus. Et puis il y a ceux qui, comme disait un de vos collègues pour m'éclater la tête, ceux qui puent la sueur, il m'avait dit. Et au début, j'étais très vexé, et finalement je me dis que c'est comme ça que je suis, je suis pas virtuose, je suis un mec qui bosse, qui doit bosser des heures et des heures et des heures pour arriver à sortir un dessin. Au début, je me sentais un petit peu étriqué là-dedans, puis finalement, je me dis, voilà, c'est ma manière, faisons ça, quoi.
Vous faites très, 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 très bien. Alors, je fais un saut dans le temps quand même, mais vous avez dit que Blast, tétralogie dramatique dont on va reparler, dont la parution débute en 2009, qui va connaître un très, très grand succès, c'était la résultante, justement, des rêveurs et de Fluide Glacial. Alors, on va y revenir, mais parce qu'il faut dire que vous avez aussi très régulièrement collaboré avec d'autres artistes, soit en tant que scénariste, parfois, le plus souvent en tant que dessinateur. Il y a Jean-Michel Thirier, Jenny Wistrandheim, Johan Sfar, votre frère Patrice, ou encore Jean-Yves Ferry. Alors, avec ce dernier, vous avez réalisé les 6 volumes de Retour à la Terre, donc la vie de Manu Larcinet, dessinateur citadin qui s'installe à la campagne avec sa compagne, avec son chat. Alors, avant d'en parler, on va écouter Jean-Yves Ferry sur France Culture en 2019.
Quand vous dessinez un tracteur, que vous vous mettez à dessiner les ressorts, les boulons et tout ça, ben le lecteur il cherche s'il manque un boulon ou s'il manque un ressort. Mais c'est pas le but. Et donc quand vous dessinez un tracteur en 3 traits, ben le lecteur il a compris que c'était un tracteur et il passe à autre chose de plus intéressant. Qu'est-ce que le gars me raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Vous devenez d'un seul coup plus sensible et vous dites des choses... essentiel, justement. Et voilà, on est sur cette ligne avec Larcinet. Le retour à la Terre a permis ça parce que c'est du strip. Je me souviens que quand j'ai envoyé les premiers storyboards à Larcinet sur le tome 1, comme je présente mes storyboards de façon très minimale, justement, il m'a dit, moi, dans le dessin, je vais rester sur ça. Je vais essayer d'en faire le moins possible. D'où d'ailleurs le décor sous forme de quelques cartons. On voit jamais un angle de pièce. On voit jamais le village, on voit jamais la maison, on voit jamais de route, on voit jamais une voiture dans le retour à la Terre. Et pourtant, on parle, on raconte une histoire.
Alors, propos évidemment intéressant de Jean-Yves Ferry qui rejoint...
Tout ce qu'il vient de dire là, c'est passionnant. Hein.
Oui, justement. Alors, on va s'arrêter sur quelques points, parce que, notamment sur le fait que ce n'est pas ou ce n'était pas, dans la beauté du trait, du dessin que vous cherchiez à vous exprimer, mais vraiment dans le propos, je dis à l'imparfait parce qu'on va voir quand même que les choses ont changé et que la route est quand même d'une virtuosité rare. Mais il y a longtemps eu chez vous, il y a toujours, j'imagine, le souci de l'efficacité du dessin pour toucher le lecteur dans le propos.
Ferry et moi avions ce truc en commun, cet amour de la bande dessinée classique. Donc ça partait de Franquin, de Machereau. Alors lui en plus il était très très versé dans les Américains des années 30, 40, il connaissait ça par cœur. Et on s'était dit que plutôt que d'enquiller le train de la nouvelle bande dessinée, on voulait nous faire quelque chose d'ultra classique. Et en travaillant, on travaillait beaucoup par rebond, c'est-à-dire qu'il m'envoyait un truc, je lui renvoyais, on se renvoyait. Et petit à petit, on arrivait à simplifier tout pour n'avoir que l'essentiel des choses. Si on dessine, par exemple, un buffet, c'est exactement ce qu'il disait pour son tracteur avec les boulons qui manquent. Si on dessine l'amorce d'un buffet avec juste un petit bout, personne va se dire quoi que ce soit. Par contre, si vous le dessinez en entier, avec les livres dedans, avec les machins, déjà ça perd du sens parce que il est pas aussi important que le personnage, et surtout vous perdez l'idée de créer un vocabulaire graphique. Et dans Le Retour à la Terre, c'est un truc, ça paraît un peu anodin comme ça, mais on a pensé le fait qu'il n'y ait jamais d'angle dans les pièces de la maison. On voit jamais d'angle au sol, on voit jamais, et tout ça, ça a été mûrement réfléchi avec lui. Ça a été un travail extraordinaire. J'ai appris des choses incroyables avec Ferry. Et notamment dans la modestie des choses. Il avait ça avec, en commun avec Sampé. Il disait toujours, Ferry, il disait, Sampé, il fait des petits gars. Et c'est exactement ça. Tout se tient dans les petits gars.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on revient sur votre œuvre, Manu Larsenet.
J'adore quand vous dites ça.
C'est qu'on voit que c'est entremêlé temporairement. Il y a Retour à la Terre, mais en même temps, et très peu après, vous débutez l'écriture de Combat Ordinaire. Quatre tomes qui vont eux aussi rencontrer un très grand succès, auquel vous ne vous attendiez pas. Alors je signale d'ailleurs qu'il y a une réédition de l'intégrale du Combat Ordinaire qui va paraître le 19 avril. Couverture inédite aux éditions d'Argo. Ces volumes, alors, ils gardent quand même une forme d'humour, mais enfin, qui serait peut-être la politesse du désespoir, pour reprendre ce fameux mot, mais ils abordent des sujets tout à fait importants. Pour le coup, le propos est très fort et va conduire au projet suivant, Blast, que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel la noirceur va prendre beaucoup plus de place, on va le dire ça comme ça, puisque vous évoquez notamment votre bipolarité. Qu'est-ce qui a fait que Blast, il est venu à ce moment-là, dans votre parcours, Manu Larsenet?
J'avais pas fait de livre long sur la douleur, sur le désespoir. Je me suis dit, et en plus, à ce moment-là, déjà, on commençait à me prescrire des traitements qui commençaient à marcher un peu. Et je me suis dit, j'arrive à un moment où si ça continue dans ce sens-là, je me souviendrai plus de la vraie douleur. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de le faire. Donc j'ai pris 4 ou 5 ans ou 6 ans, je crois, pour faire ces 4 ou 5 tomes, je sais même plus combien il y en a. Et je me suis dit, là, pour le coup, je vais montrer une vraie noirceur. Parce que souvent, en bande dessinée en particulier, mais aussi au cinéma, quand des gens s'emparent, par exemple, du sujet du désespoir, ils peuvent pas s'empêcher de mettre des onces de lumière, à des endroits des petits espoirs et tout. Alors que la vraie dépression, c'est l'annihilation du désir et c'est l'annihilation de l'avenir. Il y a aucun espoir. Et je trouvais que c'était un mensonge. J'aime pas quand on n'est pas sincère. Donc je me suis dit, je vais faire un truc sans aucun espoir, avec la noirceur dont je me souvenais, parce que j'étais déjà en train de passer à autre chose. Mais par contre, je me souviens de mon adolescence, je me souviens de l'armée, je me souviens de tous les moments où j'ai cru exploser en vol. Et j'ai essayé de les plaquer sur ce personnage, et finalement, au bout de quelques temps, ça a commencé à fonctionner. Et en plus, j'aimais beaucoup ce personnage. J'avais un attrait pour lui qui était un peu malsain. Mais parce que je n'ai pas toujours aimé que des gens extraordinaires. J'ai aussi aimé des ordures, des toxicos, des malades mentaux. Tout ça fait que j'en avais un peu assez de ce truc hollywoodien, vous voyez. Si on parle de désespoir, il faut quand même rigoler. Non, il faut pas rigoler. Il faut le faire à fond. Il faut toujours faire les en particulier les livres, il faut les faire à fond.
Il faut pas tricher. Ce qui nous amène à votre choix musical, Manu Larsenet, pour cette émission qui s'est portée sur un morceau de Mano Solo. Ça scintille. Pourquoi ce choix?
Parce que c'est horrible. C'est dans son dernier album. Son dernier album, il a mis du temps à le faire. Et il est, pour moi, presque solaire. C'est-à-dire que j'adorais les trois ou quatre albums qu'il avait fait avant, qui étaient d'une noirceur incroyable. Il était atteint du sida, c'était un toxicomane, c'était une vie difficile. Et je trouvais sa douleur magnifique. Et dans cet album, on sent qu'il a peut-être même fait de la psychanalyse ou un truc comme ça, parce que il revient avec une sorte de lumière intérieure. Et 2 mois après, il meurt. Et cet album, pour moi, c'est la plus belle chose qu'il pouvait faire avant de mourir.
On écoute, ça scintille, Mano Solo.
Ça brille, ça scintille au creux de mon corps. Ça se vrille, s'illumine, mais rien ne se voit au dehors. C'est une maison où je me sens bien. C'est une maison où personne ne vient se leurrer d'amour ou de bons sentiments. C'est une maison où personne ne te ment. quoi qu'il se passe, que le monde entier se glace, rien ne peut détruire une vraie vie de souvenirs. J'ai pitié pour tous ceux qui ont pitié pour moi. Ils avouent là que eux ne supporteraient pas, qu'ils n'auraient pu vivre sans souffrir. Toute cette liberté dont j'ai pu jouir. J'ai pitié pour tous ceux qui croient que ma vie n'est pas un cadeau, alors que la leur ils l'emploient à alléger leur fardeau. Ça se vrille et ça scintille au creux de mon corps. Ça se vrille et s'illumine, c'est vous qui serez tous morts. Quand je ne serai plus là, c'est vous qui serez tous morts. C'est vous qui serez tous morts pour moi.
Mano solo, ça scintille. Alors, je sais bien que j'ai de la chance, hein, tous les jours, mais j'ai la chance d'avoir eu le duo. Mano solo, Manu Larcenet. Parce que vous chantez très bien. Hein,
c'est Larcenet, gentil, mais pas aussi bien.
Qui en douterait. Mais revenir à Blas quand même pour parler forme. Parce qu'avec cette série, vous affranchissez de la case, comme on dit. Vous inventez une nouvelle façon de travailler qui part du carnet. Vous faites votre page d'une façon générale et après, vous allez faire chaque image et, si j'ai bien compris, passer par l'ordinateur pour agencer vos cases. Qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça libère dans le processus ?
La bande dessinée, c'est un métier long. C'est un métier très long. Il faut faire des tonnes et des tonnes de dessins pour raconter une histoire. Et moi, ma hantise, c'est de m'ennuyer. Parce qu'une fois que je m'ennuie, j'arrive plus à me concentrer. J'arrive plus à suivre le fil de ce que... Donc du coup... Oh, je suis désolé, je suis encore sous la musique. Ah, non, j'ai comme un... ça me monte dans la gorge. Oh la vache. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de construire... En bande dessinée, classiquement, on dit il faut toujours construire la planche. Faut mettre les noirs à des endroits pour que ça ait une circulation. Et j'arrivais pas sur Blast. Donc, j'ai pris chaque case que j'ai dessinée sur des grandes feuilles, comme je pensais que c'était le mieux. Et après, par ordinateur, je les scannais et je les recadrais pour les mettre dans la planche. Ça faisait moins de pression. Je me disais, ah, j'ai fait une belle case aujourd'hui. Alors qu'avant, je me disais, quoi, j'ai fait qu'une case? Et en fait, ça a changé la manière que j'avais de voir la bande dessinée à ce moment-là.
Alors, je fais un saut un peu dans le temps, mais parce qu'il y a eu un autre changement majeur, d'ailleurs, qui a valu une exposition à la Galerie Barbier et Maton, Manu Larcenet, l'adieu au papier, ouais. 2018. Vous passez à la tablette numérique. Alors là encore, qu'est-ce qui a, d'une part, motivé ce changement ? Vous vous ennuyez peut-être avec les crayons, mais qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, c'est un outil. Donc déjà, parce que j'ai entendu...
Le crayon aussi est un outil, la tablette est un outil.
Voilà, exactement. Il faut... Souvent, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de collègues qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est n'importe quoi, et les originaux, et ceci, et cela. » Je m'en fiche complètement. Depuis tout petit, j'ai une relation d'amour-haine avec le papier. Quand vous faites un dessin sur du papier et que vous ratez, vous gommez, mais le papier, il est plus exactement le même là où vous avez gommé. Donc quand vous reprenez, il y a un effet différent. Et au bout de... Moi comme je vous disais, je fais les choses à la sueur. J'essaie, je recommence, je masque, je reviens. Et sur du papier, ça finit par faire, comme dit mon tatoueur, un gros pâté Manu. Il est marquisien, c'est pour ça. Et donc, j'aimais pas tellement papier. Et quand sont arrivés les premiers logiciels ou applications très très forts pour imiter les choses, je suis passé directement dessus et j'ai trouvé une... la possibilité d'étaler cette histoire de essayer. J'essaye, j'enlève, je fais pomme Z, je reviens, j'enlève, je un trait magnifique, hop, je le prends, et puis je recommence un dessin à partir de celui-là, et ainsi de suite. Le seul problème de la tablette graphique, c'est que vous pouvez faire des loops à l'infini. Au bout d'un moment, vous êtes sur votre petit machin, vous faites des détails, et quand vous revenez à la taille normale, vous apercevez que vous avez fait ça pour rien, ça se verra même pas, quoi. Donc, il faut une gymnastique, souvent d'aller et de retour. Mais alors, il y a un truc extraordinaire, c'est que, moi, j'aimais beaucoup les outils de bricolage quand je faisais du papier. Je me rappelle que j'avais des, vous savez, les brosses à bougies en métal pour gratter l'encre, je trouvais ça magnifique et tout ça. Donc, avant de commencer chaque livre maintenant, parce que je ne suis que exclusivement sur l'ordinateur, enfin sur la tablette, pardon, je crée une dizaine d'outils que je fais à ma main, mais vraiment au millipoil, et je les bloque pour pas pouvoir les agrandir, les réduire. Comme ça, je suis sûr que dans mon format de case, je vais pas une fois faire un trait très fin et la case d'après faire. Il y a une unité, et c'est un moment de, comment je peux dire ça, de intense de réflexion avant de commencer. Et j'adore ce moment de calme avant la tempête.
Et après, il faut y aller.
Et c'est quand il faut y aller, après, c'est autre histoire. Chose. Oui.
Alors, logiquement, si ma chronologie est juste, c'est avant ce changement d'outil que vous faites ce diptyque à partir du rapport de Brodeck.
Oui.
Moi, j'avais le roman de Philippe Claudel, dont j'ai un souvenir assez terrifié, je veux dire, de la lecture au moment de sa sortie. Adapter un roman, c'était à ce moment-là pour vous une première, Manu Larcenet. Oui. Qu'est-ce que vous êtes posé comme question à ce moment-là?
Pour le rapport de Brodeck de Philippe Claudel, honnêtement, je ne suis pas posé énormément de questions, je le voyais. Quand je l'ai lu, alors déjà, j'ai beaucoup aimé ce roman, mais peut-être plus que même que ce que je lui ai dit à Claudel. J'ai énormément aimé ce roman, et surtout, je me suis projeté dans un des personnages. Et en plein milieu du livre, je découvre la tablette graphique. Mais je me dis, c'est trop tard, j'ai commencé sur du papier, il faut que je finisse sur du papier. Et comme toujours, moi c'est toujours la même chose, c'est l'ambiance humide, la neige, le froid, les gens sont sales, ils ont des trognes de types qui sont là depuis 200 ans et qui n'ont jamais vu le soleil, ils ont des mentalités très très étriquées, à un moment ils tuent des animaux, un cheval, un âne, et tout ça, c'est des choses dont l'esthétique me plaît et me parle énormément. Et cette noirceur-là, ça a toujours été mon fond de commerce, mais c'est plutôt mon fond de commerce dans la vie. Ça a été mon fond à moi. C'est la noirceur. Alors, peut-être je sais pas faire des choses extraordinairement colorées et tout, mais ça, je sais que je sais faire. Et je m'étais pas posé tant de questions que ça parce que, le rapport de Brodeck, il est pas écrit à la première personne. Il est écrit, on est dans la tête du héros. Donc, j'ai pu sortir beaucoup de textes. Chose que j'ai pas pu faire pour La Route, ça a été un autre truc.
Alors La Route, un autre truc, l'adaptation de ce roman de Cormac McCarthy qui vient de sortir chez Dargo. Est-ce qu'il y a justement d'ailleurs l'expérience du livre de Claudel, est-ce qu'elle vous a servi pour La Route dans l'adaptation, vraiment dans le travail de découpage, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas?
C'est pas un problème, j'allais dire. Le truc c'est que j'ai toujours la même exigence que ce soit pour une adaptation ou que ce soit mes propres trucs à moi ou pour écrire ou pour dessiner les choses que m'avait écrit et Ferry. C'est-à-dire, je ne conçois ça que comme une tension interne. À partir du moment où il n'y a pas cette tension, je m'ennuie, j'arrive le matin, ça me saoule. Donc il faut simplement s'intéresser aux choses. Et des fois, on s'intéresse au roman, puis d'autres fois, on s'intéresse aux traits. C'est pour ça que je m'entoure en ce moment de livres d'art pour voir les traits des gens, des uns, des autres, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils ont réussi, eux, à faire passer avec leur manière de faire. Et plus je me gonfle de ça, plus je les regarde, plus ça devient intense, et il y a un moment où, hop, c'est comme si vous étiez prêt. Alors, ça veut pas dire que ça va être facile, ça veut pas dire que je vais y arriver, mais ça veut dire que j'ai tellement envie que là, maintenant, il faut y aller. Mais il y a, en amont de tout ça, je passe mon temps à dire ça aux mômes, il faut regarder ce que font les autres. Tout seul, comme ça, on n'est rien. Si on s'intéresse à l'histoire de l'art, si on s'intéresse, même qu'il y a quelques mouvements de l'histoire de l'art, si on va pas dans les musées, c'est pas bon. Il faut aller voir ce qu'on fait les autres avant, c'est très, très important. Parce qu'il y a des solutions chez eux qu'on va pouvoir adapter à soi. Et c'est pas la fameuse appropriation culturelle, comme je j'entends des fois, c'est juste, enfin, c'est ça. On a le droit de s'approprier
c'est l'histoire
la culture.
De l'art.
Voilà. Il faut s'approprier la culture. Ah oui. Quand on étudie Braque et Picasso, quand on étudie les fameux duos Egon Schiele, Klimt, ou des choses comme ça, on comprend l'interaction qu'ils avaient entre eux, et on peut en tirer, nous, des choses pour nous, pour chaque case. J'ai pensé, il y a un dessin que j'ai même pas vu, dans La Route, où c'est presque un tableau de Goya, le Saturne mangeant son fils. Ouais. Et je m'en suis pas aperçu sur le coup. C'est-à-dire que ce tableau, il est accroché dans mon atelier depuis X années. Donc tous les jours, je le vois. Tous les jours. Et à un moment, je l'ai fait mien et il est ressorti sans que je le fasse exprès.
Alors pour rappel, concernant La Route, on sait que donc, un cataclysme a eu lieu. Bon, ça qui a dévasté le monde, on n'en saura pas plus sur le dit cataclysme. Il y a des incendies géants qui ont ravagé... toute la surface de la Terre qui n'est plus recouverte que de cendres. Il y a toujours ce ciel qui obscurcit la lumière. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'animaux. Il y a pas mal de survivants, mais pour survivre, qu'est-ce qu'on fait ? On mange d'autres êtres humains. Et La Route suit donc un père et son fils, le père ayant choisi de faire route vers le sud. Premier choix formel qui découle du texte d'une certaine façon, le noir et blanc, ou plutôt 50 nuances de gris, mais sans, pas tout à fait la même chose, mais quelques rougeurs aussi, on va
c'est
dire.
C'est comme dans 50 nuances de gris, il y a quelques rougeurs aussi,
quelques
je suis désolé.
Rougeurs, pas aux mêmes endroits.
Non.
Avant d'aborder cette dimension, on va écouter un cinéaste que vous aimez bien, Jim Jarmusch, au micro de Laura Adler en 2016.
I love black and white as much as I love color material.
J'aime beaucoup le noir et blanc, même titre que la couleur. Il est étrange que certains pensent que le noir et blanc, c'est obsolète sous prétexte qu'il y avait le noir et blanc avant la couleur. Mais c'est ridicule, c'est comme si on disait, bon, maintenant on a la photo, par conséquent on n'a plus besoin de peinture. C'est comme si on disait que, bon, maintenant on a des ordinateurs portables, on n'a plus besoin de crayons. C'est ridicule, il ne s'agit que d'outils. Le noir et blanc comporte des qualités que la couleur ne permet pas. Réduction de l'information, cela provoque l'imagination, parce qu'on ne vous donne pas toute l'information sur les couleurs des objets, des personnages, des paysages. Donc ce sont les sens du spectateur qui travaillent dans l'imagination. Et ça, c'est bien plus onirique que de donner toutes les informations de couleurs. Les deux sont tout à fait... beau. Tout dépend du récit, de l'atmosphère, de l'ambiance que l'on veut faire passer. Mais moi, je suis très attaché au noir et blanc.
Couleur au noir et blanc, Manuel Arsenet, vous partagez, je pense, le regard de Jim Jarmusch sur leur utilisation.
Qu'est-ce que je peux ajouter à ça ? C'est d'une précision redoutable. En fait, c'est le récit qui détermine. C'est le récit qui détermine. Au début, pour La Route, je trouvais que comme c'était un livre dur, je voulais le faire en noir et blanc. Puis au bout de 10 pages, je m'aperçois que c'est le contraste le plus fort. Donc ça fait des passes très violentes, très dures. Et que quand on place quelques gris légèrement colorés, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune, soudain, le dessin prend vie, mais plus vite dans sa violence. Il devient quelque chose d'un tout petit peu plus patiné. Et ce roman-là de McCarthy, c'est surtout un roman sur la lourdeur. Tout est lourd. Donc il a fallu que je descende mes cadrages très bas dans les cases pour donner cette impression. Et les couleurs, c'est pareil. Si je faisais des couleurs très vives, le dessin devenait un support à la couleur. Alors que moi, dans ma psyché à moi, c'est la couleur qui doit apporter ce léger support au dessin, sans le bouffer pour autant. Donc c'est des subtils équilibres et ça ne dépend que du récit, que de l'ambiance qu'on veut donner aux choses. Et là-dessus, Jarmusch, évidemment, bombé. J'en profite pour dire à vos auditeurs, s'ils ont envie de regarder probablement un des plus beaux films du monde, faut qu'ils regardent Patterson de Jim Jarmusch.
Ça, je suis d'accord.
Qui est un film sur la création. Alors, ça peut paraître un peu ennuyeux comme ça, mais c'est un film qui est magnifique, de bout en bout. Et il y a tout dedans, de l'esthétisme, une histoire, des acteurs. Vraiment, je ferme la parenthèse, mais si vous avez l'occasion de le voir, c'est un des plus beaux films du monde.
Oui, on en reparlera et j'aurai la chance d'en reparler dans quelques semaines avec Golshifteh Farahani, qui est l'une des deux interprètes principales de ce film, l'autre étant Adam Driver.
Vous allez faire ça ?
Ben oui.
Génial.
Bon, on reprend les choses dans l'ordre et on revient à la route. Une fois que vous avez décidé d'adapter, bon, les étapes de travail, c'est quoi? Est-ce que vous avez un exemplaire du livre avec des notes, ouais, des codes couleurs pour dire je prends ça, je mets ça? Comment
j'ai,
ça se passe?
Alors, ça a été un peu différent. Avant sa mort ou après sa mort, McCarthy, oui, est mort, j'en étais à peu près à la moitié, en bon an mal an à la moitié. Et j'ai pris ça sur le coin de la... Alors, je lui avais jamais parlé, on n'avait jamais échangé, mais je m'étais dit, si je me plante, lui, il me le dira. Parce que vos éditeurs, ouais, ils sont adorables, ils vont pas vous dire, vous vous plantez. Les agents, ils vous disent pas ça. Par contre, l'auteur, en plus, c'était pas apparemment quelqu'un pas de très commode. Voilà. Et je m'étais dit que j'avais ce garde-fou-là. Et soudain, il disparaît, en plus, de manière assez violente. J'allume la radio le matin, c'est la première chose que j'entends. McCarthy est mort, et j'ai du mal à comprendre que c'est le mien, en fait. Enfin, le mien, si je peux m'exprimer ainsi. Celui de la route. Et je suis déçu. Je me dis, mais comment? Enfin, déçu de sa mort, c'est nul. Je suis touché. Mmh. Voilà, touché. Alors, peut-être plus pour mon propre travail que pour sa pauvre vie à ce monsieur que je connais pas. Mais je me dis, maintenant, il va falloir faire autrement. Et avant, je travaillais avec le livre un peu loin. J'avais déjà découpé, si vous voulez, une grande partie pour savoir ce que j'allais mettre dans chacune de mes cases. Mais là, j'ai repris le livre avec moi et je l'avais toujours à la main gauche pendant que la main droite dessinait. Parce que, dans certaines de ces phrases, c'est juste un adjectif qui compte. Oui. C'est juste une toute petite chose. Et je me suis dit, le meilleur moyen de pas trahir, c'est de l'avoir en permanence à côté de moi.
Et puis, mettre ce livre en image, alors, un autre qu'il avait fait avant vous, le cinéaste John Hillcoat, qui a notamment, oui, signé un chef-d'œuvre, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je recommande à tout le monde, qui est Ghost of the Civil Dead, dans lequel Nick Cave est l'interprète principal. Ça se passe dans une prison de haute sécurité en Australie, je vous conseille Ghost of the Civil Dead.
Je vais essayer ça.
Est-ce que vous aviez vu le film de John Hillcoat, La Route, avant de vous lancer dans l'entreprise?
Je l'avais vu à un moment où je pensais pas adapter La Route. Et j'avais, alors moi je suis un fan de Viggo Mortensen depuis, ouais, Indian Runner de Sean Penn, qui pour moi est encore un film, ouais, qui a marqué. Et j'avais trouvé ça vachement bien. Mmh. Alors, peut-être pas le chef-d'œuvre du siècle, mais pour un film avec un budget, je trouvais ça très très bien réussi. Mmh. Et j'avais oublié ça. Et une seule scène me restait dans c'est quand ils arrivent dans une cave et qu'ils voient des gens, un garde manger dans, ouais, une cave. Je me souvenais de ça parce que j'avais trouvé ça particulièrement bien tourné. Moi, ce que j'aime, c'est, à l'inverse de ma bande dessinée, c'est dans le cinéma, moins on en montre, plus on peut imaginer.
C'est Jacques Tourneur, quoi. C'est,
voilà,
c'est
exactement.
Nicole Tourneur, oui.
Exactement. Donc, c'était ça qui, j'avais vu le film, mais je m'en souvenais plus vraiment. Mmh. C'était pas trop présent dans ma psyché.
Non, mais c'est important de le savoir. Et je m'en doute quelque peu. J'ai revu le film avant-hier pour en être bien sûr. Mais comment est-ce que vous avez choisi le découpage de vos planches? Est-ce que vous avez avancé, vous disiez tout à l'heure, j'avais toutes mes cases en tête, mais vous avez la vision d'ensemble, l'architecture du livre avant de vraiment commencer?
J'ai l'architecture de la moitié. C'est-à-dire que quand je relis pour la troisième fois en règle générale le livre, j'ai des centaines de feuilles dans lesquelles je dessine des pages. Enfin, je croque, hein. Et des fois, c'est juste trois traits pour me rappeler. Mmh. Une grande case, une moyenne, une petite, un machin. Là, ils se regardent. C'est tout. Mais que jusqu'à la moitié du livre. Parce que la bande dessinée, ça peut être un tunnel. C'est-à-dire, vous commencez, vous êtes vachement content, puis à bout de la 20e case, vous vous dites, il m'en reste encore plus de 130. Donc, pour pas perdre l'enthousiasme, j'essaye d'avoir la deuxième moitié du livre un peu comme une surprise chaque matin. C'est-à-dire que j'établis mon vocabulaire graphique sur la première moitié, je découpe et tout, je sais où j'en suis, je bute, je résous certains problèmes. Et je sais que ces problèmes-là, s'ils se représentent, du coup, je sais les résoudre. Mais du coup, chaque matin, quand j'arrivais, je tournais à la page et je me disais, ah oui, c'est ça, c'est vrai. Et là, je retrouvais, voyez, cette... Parce qu'en fait, si ça vous lâche, vous êtes à l'usine. Mmh. Et ça se voit. Et je l'ai fait des fois, hein, je vais pas mentir, j'ai fait des livres à l'usine. Et c'était naze, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et là, en plus, comme il était décédé et que tout le monde semblait me dire, je savais pas qu'il était pris Pulitzer et tout ça, moi, hein. On m'avait pas dit ça. C'est que c'est mon éditeur qui m'avait dit, ah bah oui, quand même, ça s'est bien vendu, machin. Et là, sûr. Donc la pression me tombait dessus et tout ça. Mais je me suis surtout gardé cette idée que chaque matin, je tourne la page et je me dis, ah mais oui, il y avait ça. Essayez de garder ça. Sinon, ça se voit, ça se sent.
Alors, dire que quand même, on évoquait tout à l'heure, des fois, le peu de cas que vous faisiez de la précision de vos dessins quand vous étiez plus jeune, hein, Manuel Arsenet, avec La Route, on va dire que c'est un virage à 180 degrés quand même, parce que chaque image est une œuvre en soi. En même temps, je pense que le génie du livre oblige à la beauté du dessin. Alors, il me semble que votre adaptation, que je trouve plus réussi que le film de John Hillcoat, que j'aime bien aussi. Mais,
merci.
Non, mais dépasse, parce que le roman graphique, il me semble que c'est vraiment la seule adaptation réellement possible de ce livre de Cormac McCarthy, parce qu'on a à la fois des planches qui sont très très belles, dans leur dureté, mais aussi, c'est pas moins important, il y a le respect du silence, qui est quand même quelque chose qui est absolument central dans le livre, et c'est difficile au cinéma de ne faire que du silence. L'écriture de McCarthy, elle vous amène vous guide sur la quantité comme ça de réflexion qu'il peut y avoir sur la condition humaine, sur la paternité, sur la fragilité de notre monde. C'est un livre qui, moi je trouve, laisse de la place au lecteur pour penser.
Ah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Je trouve ça très beau que vous ayez vu ça.
C'est votre désir.
En fait, c'est très peu intellectualisé. J'y vais un peu au flanc, quoi. J'y vais un peu à l'instinct. Et je suis mon lecteur. C'est-à-dire que si moi-même je me dis, on voit que la moitié des choses. Ouh, c'est pas top. Il faut arrêter de laisser passer. Il faut le refaire. Et avec d'ailleurs la palette graphique, c'est un vrai plaisir puisque du coup, c'est très facile de recommencer. Je sais plus quelle est. Je suis désolé.
Non, mais ça nous laisse de la place à nous qui lisons le livre.
Mon but, c'était que, alors, j'ai beaucoup, depuis que je suis jeune, des fois, quand un livre à moi sort, je vais à la Fnac, un marchand de livres, et je regarde les gens comment ils lisent. Ouais. Et souvent, j'ai remarqué, et c'est naturel, hein, pourquoi pas, les gens, quand il n'y a pas beaucoup de dialogues, ils passent les pages. Et ils s'arrêtent sur les dialogues ou sur les textes. Et pour lutter contre ça, parce que là, il y a vraiment très peu de textes, je me suis dit que j'allais faire l'inverse de ce que normalement je m'astreins à faire, c'est que j'allais tout compliquer. Donc j'ai acheté des livres de Gustave Doré, j'ai acheté des livres de Dürer, et j'ai regardé cette manière de la gravure qui, de cette époque-là, qui était de rajouter, de complexifier, de mettre des détails partout, ce qui force le lecteur a déchiffré la case et non pas à passer dessus comme si de rien n'était.
Ben, mission accomplie, Manuel.
Ça fait plaisir.
Il me reste à rappeler que ce livre, La Route, vient de paraître chez Dargo, adaptation du roman de Cormac McCarthy, qui reparaît aux éditions Point, avec quelques dessins de Manuel Arsenet dans cette édition, et que donc il y aura, je le rappelle, une réédition intégrale du Combat Ordinaire. Ça sortira le 19 avril, toujours chez Dargo. Couverture inédite, ça c'est vraiment pour les fans. J'adore. Merci Manuel Arsenet d'avoir été
notre invité. Merci à vous, vous avez bien lu, c'était magnifique. Merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Alors qu'elle est plus que jamais menacée par la gentrification et un projet d'extension d'autoroute, la culture techno-berlinoise a été admise le 13 mars dernier sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Si le risque existe de la voir, sinon disparaître, du moins être reléguée au rang de curiosité touristique, la technoculture continue d'attirer producteurs et DJ du monde entier. C'est le cas de Samantha Poulter, alias Logic 1000, DJ et productrice australienne qui s'est installée dans la capitale allemande avec son mari et partenaire artistique Thom McAllister. Révélée sur le tard, la productrice de 37 ans vient de publier un premier album, Mother, véritable lettre d'amour à la house music. Samantha Poulter explore les ramifications de ce genre, de la Chicago House à la Deep House, en passant par la plus éloignée UK Bass. En 12 titres très variés, elle délivre un formidable album de club, agrémenté de quelques titres chantés. C'est le cas du très efficace Promises, sur lequel intervient Rochelle Jordan.
It's real lies, I've been hurt so many times that I I'm ticking like a clock on you. Tell me where your intentions lie, though you make me wanna try. Convince me that you don't.
C'était Promises de Logic 1000.
France Culture, le grand tour, grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours en Aveyron avec Fred Sancerre, le directeur de Derrière le Hublot. Cette scène conventionnée sans lieu, mais avec beaucoup d'idées et de projets. Et aujourd'hui, nous allons vivre ensemble le service d'art à domicile qui se déploie partout sur le territoire. Alors le principe est simple, un artiste, une auxiliaire de vie et une personne qui reçoit chez elle. Alors en route vers chez Simone, 87 ans, et beaucoup d'histoires à partager. Fred, vous pouvez nous dire où on est là maintenant ?
Géographiquement, on est à Villeneuve d'Aveyron, on est donc sur le Cossin. L'Écosse de Villeneuve. Et on est à Villeneuve parce qu'on s'est donné rendez-vous avec Aurore qui travaille derrière l'Hublot, avec Garnews qui va être avec nous pour le service d'art à domicile, et parce qu'on va retrouver aussi Daniel qui est auxiliaire de vie, et on va se rendre chez Simone Roux qui est dans un petit village à côté, dans un village qui s'appelle Salle-Corbatier.
Alors avant de les rejoindre, là je vois que vous avez une boîte qui ressemble à une boîte à outils un peu, non ? Une boîte toute rouge sur la table, il y a quoi dedans ?
Alors c'est un peu ça, c'est la boîte à outils des artistes qui se déplacent sur le service d'art à domicile. Dedans, l'idée, c'est qu'ils ont à la fois toutes les infos dont ils ont besoin, et puis pour le pendant et la préparation, vous avez un carnet de liaison qui va se suivre d'artiste en artiste, où chacun a mis qu'est-ce que c'est, à quoi il faut penser, comment ça marche. Quelqu'un qui dit peut-être qu'il s'agit de trouver le moment opportun pour créer un acte artistique, éphémère, unique. Le moment ne peut naître, à mon sens, que de la rencontre. Voilà. Et donc, il se passe ce cahier-là, et de service d'art à domicile à service d'art à domicile, ça donne des pistes aux artistes, ça leur explique qu'on a rencontré tel jour telle personne, attention, cette personne-là, elle aime ça, ou attention, elle parle de ça, ça peut donner des tuyaux, des indices, voilà.
Et là, vous la découvrez juste, cette boîte ?
Non, j'avais déjà eu la chance de d'œuvrer avec l'an passé quand on avait fait les prémices du travail de design du service d'art à domicile. Et donc je suis ravi de la retrouver en fait.
Et elle vous est utile?
Oui, oui, en tout cas elle est utile parce qu'elle est pleine de belles idées aussi, c'est presque une boîte à idées. Effectivement, on y écrit des choses et puis cette idée de la photo, c'est une super idée. Voilà, donc on a notre petit Polaroid où on va esquisser ce jeu photographique avec les aidants et les personnes accompagnantes.
Alors là, on va retrouver Simone dans quelques instants. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire chez Simone ou pas du tout ?
Alors, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de lui emmener, mais je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Donc, ça va dépendre d'elle aussi, et effectivement, de l'instant, et de l'impromptu, et du moment. Et voilà, quoi.
Et vous, Daniel, vous êtes auxiliaire de vie depuis combien de temps ?
34 ans. Très contente de ce métier. Il me plaît de plus en plus. Ma voiture, elle est là.
Ouais, on va monter avec vous. Alors là, on vient de monter dans votre voiture, vous nous emmenez chez Simone pour un service d'art à domicile.
Oui, voilà, tout à fait. Simone qui habite à Salles-Courbatier, chez qui j'interviens depuis 4-5 ans. Elle a eu des problèmes de santé et puis elle a eu besoin voilà, d'une aide.
Et depuis combien de temps vous travaillez avec Derrière le Hublot et le service d'art à domicile ?
Ah, ça fait 2 ans. C'est la troisième intervention là, qu'on fait là.
Parce que l'auxiliaire de vie dans ce projet, c'est vraiment, ça fait partie de... j'allais dire, c'est un trio, quoi. Il y a l'artiste qui vient, la personne chez qui on va, et puis l'auxiliaire de vie qui fait le lien.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et les trois sont utiles, quoi. Mmh.
Et vous l'avez préparé, par exemple, Simone, à notre venue ?
Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, bon, il faut les mettre en confiance. Déjà, on va chez eux, ils sont quand même un peu intimidés.
Ah, c'est pas rien d'accueillir des artistes chez soi.
Mais oui, ils sont timides aussi. Ils sont timides, ils sont réservés. Puis bon, c'est dans leur intimité aussi. Ça peut être un guitariste, comme un conteur, comme quelqu'un qui fait un dessin. Enfin, voilà,
il y a tout type d'artistes.
Voilà, c'est ça, oui.
Et là, aujourd'hui, on est avec un comédien.
Voilà, c'est parfait.
Voilà, bon, on va voir ce qui va se passer.
Christophe. Voilà, c'est ici, chez Simone. Je sais pas si vous attendez.
Moi, je vais réussir à sortir.
Ouais.
D'accord. Bonjour, madame.
Bonjour, pardon, excusez-moi.
Simone. Marie, oui. Enchantée. Voilà. Merci de nous accueillir.
Ah, d'accord.
Chez vous. Merci beaucoup, merci.
Rentrez.
Essayez de ne pas vous mettre trop de terre partout. Hein.
Passez
par
à
là.
La salle à manger, oui. C'est la cuisine.
Je suis venu voir pour vous rencontrer, pour vous dire des choses aussi.
Allez, et alors, savoir. Qu'est-ce que vous allez me dire ?
Moi, je voulais vous parler de l'art à domicile, parce que j'avais envie de vous poser la question. Vous en aviez vu déjà des artistes qui étaient venus vous voir, non ?
Oui.
Vous vous souvenez de qui c'était ?
J'ai quelques photos.
Oui.
Ah, ils vous ont écrit ?
Oui.
Oui.
Ouais. Elle a eu des...
La classe.
C'est là, non ?
Et puis disons, vous
là.
Avez été gâtée, Simone.
Ah oui, puis il y a un gentil... Tiens, j'ai plus la lettre, mais si, il doit y avoir un derrière, regardez. Vous pouvez la lire.
C'est pas confidentiel.
Non.
Chère Simone, je garde un bon souvenir de ce moment passé avec vous. Le twist, le charleston et les noix. Merci pour les souvenirs partagés. Je vous embrasse, Cécile.
Eh oui.
Vous avez dansé le twist avec le charleston. Alors, les noix, quel genre de danse ?
Ah oui, un moment, je voulais vous en faire, je ne les ai pas fait. Je et fais alors, des noix caramélisées.
Mazette, j'ai amené l'imparable, le fabuleux, le légendaire Jacques Prévert. Vous connaissez Jacques Prévert ?
Un peu.
Je le connais pas très bien non plus, hein, mais je vous rassure. Mais j'ai pu penser que c'était chouette. Je me suis dit, tiens, c'est une autre façon. Vous aimez les histoires en plus. Vous les racontez bien, puis.
Oui, j'aime bien les histoires. J'en ai tellement raconté.
Oui.
Les histoires à mes petits louveteaux, à mes enfants, mes petits-enfants.
Et alors, l'histoire de la pêche à la baleine, vous la connaissez ?
Ah oui.
À la pêche à la baleine. À la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper, sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui ne m'a rien fait, papa? Va là, pépé, va là pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Mais voilà la porte qui s'ouvre. Et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table et dit d'une voix lamentable « Dépêchez-vous de la dépecer. Et pourquoi donc que je dépecerai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. » Puis il jette le couteau par terre. Mais la baleine s'en empare et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Et voilà. Voilà Prosper qui prépare les faire-part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari et la baleine, la larme à l'œil contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie « Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez « La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. »
Ah, t'es bien. Eh oui.
Ouais, c'est bien.
Ah si, mais il y a des choses, des fois, ça vous prend aux tripes, comme on dit. Pour les personnes seules, je peux vous dire que ça aide. Hein.
Oui.
Parce que moi, ce soir, je repenserai tout ça. Hein.
Ouais.
Je refais ma vie de l'autre côté.
Ouais, mais c'est vrai que c'est une belle histoire, une belle initiative.
Ah oui.
Quand le soir, on y repense, vous n'êtes pas la seule, parce que nous aussi, on
mais
y
oui,
pense.
Mais oui, c'est pas. Sûr, on refait un peu sa journée. Truc. Puis je me rappellerai de vous, hein.
Il y a un petit protocole où on joue au Polaroid à trois.
Donc là, c'est Daniel qui prend le premier Polaroid.
Allez, un, deux, trois.
De Christophe et Simone.
Ah, mais je n'ai pas fini.
Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Daniel? On regarde qui, quoi?
Moi.
Ah, je crois que celle-là
est réussie. Elle est bien, elle est réussie.
Et alors là, vous savez quoi, Simone? C'est vous qui faites la photo maintenant.
Non, je ne sais
si,
pas.
Si, regarde. Vous la tenez, vous regardez dans le viseur ici. Vous nous regardez, Daniel et moi, et vous faites la photo. Vous appuyez sur le rouge, voilà. Si vous avez...
Alors,
on se met où? C'est vous la photographe?
Ah, c'est toi.
C'est vous qui décidez la photo.
Alors attends, vous savez qu'il faut que je regarde dans le viseur.
Voilà.
Oh.
Et vous, c'est vous qui dites comment on doit se mettre. On
est là. Bien là.
Derrière le hublot n'a certes pas de lieu de représentation, mais ce nomadisme permet de créer d'autres formes d'art, des formes mobiles, accessibles, et qui renversent le rapport à la culture. Ici, les artistes vont vers les habitants, les œuvres s'adressent à des anonymes sur le chemin de Saint-Jacques ou à des personnes qui ne se déplacent plus. L'art irrigue la terre et les artistes prennent part pleinement à une belle mission de service public.
Merci Marie Sorbier, on vous retrouvera lundi pour le début d'une semaine spéciale consacrée au Japon. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Acteur populaire et drôlatique, Louis de Funès est aussi un grand incompris. Quel homme se trouve derrière les tics et les mimiques des personnages burlesques qu'il incarne?
C'est une menteuse. Elle ment en allemand. T'assistes à une colossale conspiration.
Toute une vie, Louis de Funès. Un documentaire de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisé par Pascal Rayet, ce samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
En hommage au